C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Adjan Chelil. Salut, comment ça va Adjan ?
Salut Thibaut, salut à tous. Bonne semaine à tout le monde en ce lundi matin 9h. Et pour cette semaine, je vous propose que tous les matins, vous venez nous rejoindre sur Twitch, ceux qui nous écoutent.
Car
podcast, venez nous voir en live sur Twitch puisqu'on est tous les matins à 9h sur la chaîne Supernatif sur Twitch pour parler en direct des épisodes qu'on est en train d'enregistrer. On les enregistre en direct puis après on débrief avec tout le monde dans le chat. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de Super Daily, que vous nous écoutez en podcast, venez nous écouter sur Twitch aussi.
Allez, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ta veille ce week-end, mon cher?
Moi, je démarrerai avec du Instagram et puis la fin de l'onglet shop sur Instagram. Je sais pas si t'as vu tomber la news.
Bien sûr.
Ça fait un moment qu'on en parle du fait que le social shopping, il est un petit peu en train de faire marche arrière depuis septembre de l'année dernière. C'est un petit coup dur pour ce format-là. En tout cas, sur la plateforme Meta, ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir à moins investir là-dedans. Le social shopping, tout simplement, la tech, déjà au global américaine, connaît quand même une belle crise depuis septembre. On le rappelle, il y a eu des licenciements côté Snapchat, des licenciements côté Twitter, etc. Donc, les investissements se font un peu moindres. Et puis, Meta continue à développer son métaverse et ralentit du coup ses investissements du côté shopping. Eh bien, ça a des conséquences maintenant pour nous utilisateurs quelques mois plus tard, puisque la mise à jour de février va vraiment changer un petit peu l'interface d'Instagram, puisque quand vous tombiez sur Instagram, vous savez, en bas, vous avez vos 5 petits onglets qui vous permettent de naviguer assez rapidement, et le quatrième, en partant de la gauche, c'était un petit onglet shopping, boutique, et là, vous aviez plus que des articles de boutique, c'était vraiment présenté comme une boutique, et là, du coup, Instagram revient en arrière en faisant sauter cet onglet-là qui n'existera plus. Donc, les Reels que vous aviez en bas au milieu vont se décaler d'un cran à droite pour prendre la place de cet onglet shopping, pour faire place à un petit plus pour pouvoir rajouter une publication ou une story ou ce que vous avez envie en bas dans ces 5 onglets. Donc, ça va dans le sens de ce qui se passe depuis quelques temps. Attention, Adam Mosseri, il a pris la parole sur le sujet. Il a rappelé que malgré la suppression de cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront quand même acheter des produits depuis les feeds, depuis les stories, les reels ou même depuis des pubs. Mais juste, il n'y aura plus d'endroits dédiés sur votre utilisation dans votre plateforme de base au shopping directement. Je pense que de toute façon, on le sentait depuis quelques semaines et mois. Donc, c'est le sens de l'histoire en ce moment sur le social shopping qui fait un peu, à qui on dit un peu au revoir. On va pas revoir du téléachat tout de suite sur nos réseaux.
Ouais, petite news qui veut dire beaucoup. Donc, je propose, si t'es d'accord, que cette semaine, on se fasse un épisode là-dessus.
Spécial, allez.
Tu sais, on a l'habitude une fois tous les 6 mois de dire où on en est où du social shopping.
Bah là, on va dire.
Ça sent le sapin.
Il est parti.
C'est peut-être ça qu'on va dire. Donc, on fera petit tour d'horizon de ce qui se raconte sur les différentes plateformes, etc. Moi les amis, je vous invite du côté de YouTube. YouTube qui proposera bientôt des vidéos en plusieurs langues, comme Netflix, exactement comme Netflix. Ça, c'est une annonce qui est tombée au cours de l'event Google for India 2022. Donc, c'était la fin d'année dernière. YouTube a annoncé que certaines vidéos sur YouTube seront désormais disponibles en plusieurs langues. Alors, comment ça marche? Eh bien, j'étais sérieux, ça marche vraiment comme Netflix. La fonctionnalité, elle s'appelle Audio Track et elle propose une sorte de menu déroulant sous la vidéo, là où aujourd'hui je peux trouver par exemple les sous-titrages, et bien là je pourrais trouver la même chose au choix de l'audio. Alors spécifiquement en Inde, parce que en Inde on le sait, il y a beaucoup de langues différentes en fonction des coins de l'Inde dans lequel tu te situes, et c'est là qu'ils vont faire leurs premières expérimentations de ce côté-là, possibilité de choisir sa langue. Ça ressemblera vraiment exactement au sous-titrage, comme aujourd'hui je peux sous-titrer en français, et puis c'est une IA qui fait le travail. Ben là, ça devrait être la même chose. Cette fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va d'abord être testée en Inde, je disais, mais spécifiquement sur des contenus issus de la thématique santé. Voilà. Donc tout ce qui est voilà. Pourquoi ces vidéos, elles sont extrêmement plébiscitées en Inde. YouTube est une vraie grosse plateforme d'information sur les sujets de la santé. Quelques chiffres proposés par Google de ce côté-là. Les vidéos santé ont généré en 2021 30 milliards de vues.
Ça veut dire que
En Inde sur YouTube 30 milliards.
Par exemple,
vues,
hein. Majeur Mouvement, il pourrait percer en Inde là parce que ces vidéos vont être traduites dans une autre langue automatiquement.
Par exemple. Alors on a ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour l'instant ce qui est un peu flou, je vais dire. C'est qu'on, pour l'instant, on n'a pas tous les détails techniques sur le fonctionnement à terme de cette de cet outil. On ne sait pas exactement comment ça marchait, mais a priori, ça marcherait de façon autonome, donc avec une IA qui va détecter, qui va pouvoir traduire automatiquement la langue avec une voix un peu, j'imagine du coup un peu robot, mais bon, malgré tout, contenu traduit. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit de plus en plus de YouTubers, et notamment YouTubers américains. Je pense à MrBeast qui aujourd'hui a une chaîne en français traduite en français, donc ça ressemble vraiment à une chaîne du câble. tu sais, avec la voix off toute bizarre qui parle comme
c'est
ça.
C'est Exhibit et Pimp My Ride.
Exactement. Et on le voit, cette tendance très très forte aujourd'hui des gros créateurs de contenu à se dire, bah en fait, j'ai un contenu qui peut très vite s'internationaliser à la condition de que la langue soit la bonne. Si YouTube arrive à proposer une fonction qui te traduit automatiquement avec une voix par-dessus, forcément, c'est canon.
Je me dis, quand on accompagne des marques internationales qui ont besoin d'avoir des vidéos qui sortent dans 5-6 langues différentes, c'est quand même une épine du pied en termes de création de contenu, d'arriver à tout sortir, tout sous-titrer, tout. S'il y a des automatisations qui fonctionnent dans ce sens-là, ce serait quand même assez incroyable. Écoute, moi je voulais parler de TikTok effectivement et de la première amende de TikTok en France. Ça y est, TikTok fait partie du club. TikTok est officiellement une plateforme qui compte puisque elle a payé sa première amende en France, comme Google, comme Meta, comme Apple, etc., etc.
Welcome in France, TikTok.
Voilà, la CNIL a sanctionné TikTok pour la première fois en France. Ils ont été condamnés quand même à payer une amende de 5 millions d'euros à cause d'une mauvaise gestion des données personnelles. D'après la CNIL, les utilisateurs de TikTok ne peuvent pas refuser les cookies aussi facilement qu'ils peuvent les accepter sur le site TikTok. Donc en tant qu'utilisateur TikTok, en gros, vous n'êtes pas informé de ça et puis surtout, vous n'êtes pas informé de à quoi servent les cookies et quels sont les objectifs derrière la récolte de données personnelles et qu'est-ce qui est récolté. Donc sur ces deux aspects-là, TikTok a eu des manquements que la CNIL vient donc sanctionner. C'est un manquement à la loi informatique et liberté. Hein. On se rappelle tous qu'il y a 2 ans, depuis fin 2020 maintenant, sur tous les sites internet, quand vous naviguez, vous avez toujours, vous savez, une espèce de petit pop-up qui s'affiche là avec j'accepte ou je refuse les cookies. Les deux boutons doivent être bien indiqués pour qu'on les voit bien. Et voilà, TikTok, si vous allez sur le site TikTok depuis 2020, ça n'apparaissait jamais sur leur site desktop. Donc c'est à ce compte-là que la CNIL a attaqué TikTok et surtout parce que ils ont eu le temps entre-temps de modifier sur leur site desktop mais pas sur leur site mobile. Donc on parle pas de l'application, hein, on parle vraiment de dans un moteur de recherche. Sur le site mobile, vous n'avez pas de j'accepte ou je refuse les cookies aussi simplement que ça. Donc la CNIL se laisse même la possibilité d'aller regarder aussi ce qui se passe dans l'application, hein. Pour le moment, ils ont sévi sur le site web parce que c'était vraiment un basique pour eux qui était pas respecté, mais ça pourrait aller plus loin si TikTok corrige pas déjà sa version mobile rapidement et puis en allant regarder un peu plus loin dans l'application. Comme je disais tout à l'heure, en France, il y a Google, il y a Meta, il y a Microsoft, Amazon et Apple qui ont déjà été sanctionnés exactement sur le même sujet. Est-ce que ça va suffire à faire changer la politique de ces GAFA sur les données personnelles? On va voir, c'est tout l'enjeu, hein, de l'Union européenne ces dernières années.
Moi, j'ai envie de dire non. Moi, j'ai envie de dire non, 5 millions, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, intéressant de voir qu'effectivement, les sanctions tombent. Voilà. Je serais curieux de savoir d'ailleurs dans quelle mesure derrière les GAFAM payent. Parce qu'on les voit tomber, ces sanctions, mais est-ce qu'ils payent réellement?
Bah, moi, ce qui m'intéresse.
Et où vont les sous?
Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est, tu sais, il y a eu toute une polémique aux États-Unis avec TikTok sur où étaient logées les données personnelles. Il fallait qu'elles soient aux États-Unis, elles pouvaient pas être en Chine, etc. Normalement, dans l'Union européenne, on l'a vu, parce qu'ils ont commencé à mettre la pression à Meta, l'Union européenne. Les données personnelles des utilisateurs européens devraient être conservées en Europe et ne devraient pas pouvoir sortir de l'Union européenne. À mon avis, TikTok va avoir la même problématique bientôt.
Allez, les amis, on va parler d'un autre géant. Cette fois-ci, c'est Apple. Bah oui, une fois n'est pas coutume, on parle d'Apple ici dans le Super Daily, puisque Apple lance un service équivalent à Google My Business. Bah oui, ça s'appelle Apple Business Connect et okay. ça marche exactement de la même manière que GMB, le fameux. Hein. De quoi il s'agit ? Eh ben, c'est un service gratuit proposé par Apple qui va permettre aux entreprises de personnaliser la façon dont leurs informations d'entreprise apparaissent dans les applications Apple. Je le disais, ça ressemble vraiment trait pour trait quasiment à Google My Business. Hein. En gros, on crée une fiche entreprise, on peut ajouter un logo, on peut ajouter des photos de sa boîte, de ses produits. On peut mettre à jour ses horaires, ajouter des call to action, appelez-nous, réservez, etc., etc. C'est vraiment Google My Business, mais au sein d'Apple. Alors, où est-ce qu'on va retrouver ces informations ?
Dans plan ?
Eh ben oui, notamment dans plan Apple Maps, qui s'appelle Apple Maps aujourd'hui, mais aussi dans Messages, voilà, okay. mais aussi dans Wallet, donc potentiellement quand tu as une fonction de paiement avec Apple Pay, eh bien tu vas pouvoir retrouver la fiche de ton entreprise. D'accord. Potentiellement aussi, ces informations vont pouvoir être utilisées dans Siri, donc là c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant. À voir. Bon, je suis pas certain que c'est un énorme impact. En tout cas, certainement beaucoup moins important que Google My Business. Mais ceci étant, c'est gratos. Je vous mets le lien en note de cet épisode si vous souhaitez rapidement aller créer votre compte.
Ouais, ça vaut sur Apple. Entreprise. Ça voilà. coûte pas grand chose pour voir. Quoi. Allez, je testerai pour sa trial. On regardera. On fera avec Supernatif aussi peut-être. Moi, je vais vous parler pour finir de quelque chose d'un peu plus léger avec un compte TikTok. Je vous ai mis le lien dans les notes. Hein. C'est pour bien démarrer la semaine, pour partir du bon pied. C'est l'histoire d'un cocker. Tu vois les cockers, les chiens.
oui, bien sûr.
Et ben c'est un cocker très audiophile puisqu'il a explosé là sur TikTok avec pas moins de 3,6 millions de j'aime pardon et 66 000 abonnés. Et son maître en fait a découvert que ce cocker adorait des chansons donc comme Formidable de Charles Aznavour, tu vois, ou alors certaines chansons des Black Eyed Peas. Et en fait à chaque fois qu'il les lance, et ben le chien se met à chanter la mélodie en.
Tu veux dire un cocker qui aurait l'oreille absolue.
C'est exactement
magnifique.
Ça. Ça il te fait des.
Magnifique. Ça c'est les histoires de rêve. Qu'on trouve que sur TikTok.
Ça c'est incroyable et du coup je vous laisse aller découvrir. C'est un ch'ti du Nord. Hein. Il est supporter du LOSC, le maître et son cocker est en train de cartonner sur la plateforme. Donc si vous avez envie de vous mettre de bonne humeur là en ce lundi matin, vous avez envie de passer un bon moment, allez regarder ce compte là, ça vous met le sourire.
Merci Monsieur Chélil. Allez, moi juste dernière petite news TikTok. TikTok qui lance des vidéos réservées au plus de 18 ans.
Ok, d'accord.
Voilà. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a à voir dedans ?
Ouais, voilà. TikTok va permettre aux créateurs de limiter l'accès de certaines de leurs vidéos à un public de plus de 18 ans. Alors, ce n'est pas ce que tu penses, John Chélil. Non. Les CGU, les conditions générales d'utilisation de la plateforme, elles restent inchangées. C'est la même chose. Pas de contenu, notamment pornographique. Hein. Ils sont toujours interdits sur la plateforme. Hein. L'idée, c'est simplement de permettre aux créateurs de contenu, eh bien, peut-être de pouvoir davantage contrôler l'audience à qui leurs vidéos vont être montrées. Et peut-être quand certains d'entre elles ou d'entre eux ont des contenus qui peuvent porter à polémique ou qui traite de sujets un tout petit peu border, hein, s'ils estiment que ce contenu-là n'est pas approprié à un public de moins de 18 ans, ils vont pouvoir cocher la case. Et puis, tous les gens qui auront créé un compte TikTok et qui auront rentré leur âge de moins de 18 ans ne verront pas ce contenu. Je trouve que c'est bien. Alors, est-ce que ça aura un impact ? Qui réellement, parmi les créateurs de contenu, va oser se priver de cette part d'audience-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi intéressant de responsabiliser les créateurs de contenu, de leur dire, après tout, c'est quand même vous.
C'est votre responsabilité aussi en publiant des choses.
Voilà, de décider de si oui ou non ce contenu-là, il est.
Je crois que c'est quelque chose qui existe déjà sur YouTube, hein, par exemple. Sur YouTube, quand tu publies une vidéo, tu peux cocher le fait que il y a du contenu sensible qui, du coup, devrait être réservé aux plus de 18 ans.
Voilà, bah j'aime bien l'idée.
Intéressant. Écoutez, si vous avez d'autres news à côté desquelles nous sommes passés en ce lundi matin, n'hésitez pas à venir en parler avec nous à Supernatif sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Twitter. On est partout, donc venez en parler avec nos CM adorés. Et puis sinon, on est tous les matins sur Twitch dès 9h, donc vous pouvez venir en discuter en live avec nous toute la semaine.
Merci à vous tous, on vous embrasse et on vous souhaite une très très belle journée. Rendez-vous demain. Salut tout le monde.
Ciao.